Voilà, j'aimerais que. J'aimerais prier pour commencer. Seigneur notre Dieu, c'est merveilleux de savoir que tu existes et de le lire dans la parole. Mais c'est tellement plus merveilleux de te connaître, de savoir que tu nous parles dans le cœur et que tu es non seulement décrit dans la parole de Dieu, mais que tu es réellement vivant. Seigneur, tu nous fais la grâce de nous parler. Tu nous fais la grâce de nous dire des choses qui sont précises et qui correspondent à nos besoins. Seigneur, nous voulons répondre à cela. Nous voulons prendre ces choses au sérieux. Et croyant que tu nous les as dites, aussi croire que derrière il y a la puissance pour accomplir ces paroles dans notre vie. Seigneur, merci pour la foi. Merci Seigneur, parce que ce que tu dis, tu l'accomplis également. Dans le nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 16, verset 7, un petit verset. C'est le moment où Samuel cherche un roi pour remplacer Saül. Et un verset qu'on connaît bien, l'Éternel. Donc Samuel voyait là les hommes défiler et dit, ah, ça doit être celui-là. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde et l'Éternel regarde. Il ne voit pas les mêmes choses. Il ne porte pas leur attention sur les mêmes choses. L'homme, pour vivre, a besoin d'une vision. Mon peuple périt par manque de cette vision. Il a besoin d'une vision, il a besoin aussi d'une inspiration. D'un côté et de l'autre côté, il a besoin d'un horizon. Un horizon dégagé sur lequel il va pouvoir dessiner son avenir. Il a besoin de se projeter. Et c'est très courant et énormément en ce moment, c'est que les hommes et les femmes, et surtout les enfants, choisissent des héros, des modèles, pour vivre, pour subsister, pour se développer. Et évidemment, ils choisissent des gens qu'ils admirent. Ce n'est pas le clochard du coin qui va être pris en exemple. C'est une personne qu'on admire, qu'on adule. Aujourd'hui, on a à la télé des choses qui passent, c'est assez terrible d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit en français, des reality shows, là, comment on dit en français, télé-réalité, voilà, c'est pareil. Et donc, et là, on a des gens du commun, des gens voilà, n'importe qui tout d'un coup sont mis en lumière derrière un écran et qui attirent, qui deviennent des modèles et des modèles accessibles puisqu'ils sont, ils sont comme nous. Ils sont juste mis un peu en lumière par l'écran, mais ils sont accessibles. Et nos jeunes sont, pour certains d'entre eux, pas les nôtres, mais enfin, pour certains, sont très très attirés par ça et certains peuvent ne rater pour rien au monde un de ces une de ces émissions. Une étude assez récente a montré que des étudiants, on a pris un groupe d'étudiants et on leur a fait croire qu'ils avaient raté leur concours. Ils avaient raté leur examen, c'était un examen. Et on s'est aperçu, au courant de cette expérience, que tous ces étudiants se sont surinvestis auprès de leur équipe de sport favorite. Ils se sont surinvestis et identifiés à leur équipe de sport et leur morale est remontée. La conséquence, le résultat, c'est qu'ayant fait cela pendant un certain temps, leur morale est remontée. Je pense qu'ensuite on leur a dit qu'ils avaient réussi leur examen, mais ce qu'on voulait mesurer, c'était quel était l'impact du héros, du modèle, sur le moral d'une personne, sur sa vie quotidienne, comment il supporte sa vie et comment il résiste dans la vie en se projetant dans un modèle ou dans un héros. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que l'homme ne peut pas vivre dans la frustration, et c'est pourquoi il a besoin de prendre en modèle des héros. Et il a besoin de s'identifier à quelque chose qui le fait vibrer. Et ce sujet intéresse l'Église au plus haut point parce que, en fait, l'Église est remplie d'hommes et de femmes insatisfaits. En tout cas, anciennement insatisfaits, en principe. Et c'est ce « en principe » qui fait que ce sujet nous intéresse tout particulièrement. Parce qu'on s'aperçoit qu'après de nombreuses années de présence dans une communauté, l'insatisfaction, la frustration, je vais utiliser les deux termes, insatisfaction et frustration, sachant que frustration est plutôt un terme issu de la psychanalyse et que je n'ai pas beaucoup d'affection pour la psychanalyse, mais bon, c'est un terme qui est connu. Donc, ce sont deux termes que je qualifierais de synonymes aujourd'hui. L'insatisfaction est non seulement toujours présente chez les personnes dans l'Église, mais parfois grandissante. Or, l'insatisfaction est un des plus gros moteurs de l'action chez l'homme. Et ce constat donc amène à poser au moins trois questions. En quoi les hommes et les femmes sont-ils des êtres insatisfaits? S'il y a insatisfaction, est-ce mal de vouloir changer son quotidien? Et y a-t-il une délivrance de l'insatisfaction? C'est un message qui m'a été inspiré surtout en réfléchissant à la situation des frères et des sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Parce qu'évidemment, ils ont de nombreuses raisons d'être insatisfaits de leur quotidien. En quoi les hommes et les femmes sont-ils des êtres insatisfaits? En fait, nous sommes insatisfaits parce que nous sommes faibles. Parce que nous n'arrivons pas à vivre concrètement à la hauteur de nos ambitions. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que nous pouvons faire et ce que nous aimerions faire. Et on n'est pas fort. On n'est pas courageux, on n'est pas brillant, on est juste commun. Vous me direz, ah oui, mais moi je connais des gens qui sont forts, je connais des gens qui sont courageux, je connais des gens qui sont brillants. Il y a toujours l'exception, il y a toujours ceux qui sont un peu mieux dotés que les autres, mais de façon générale, si on faisait une courbe de Gauss, eh bien on verrait que dans la population, eh bien il y a ceux qui sont avec des grandes difficultés, il y a ceux qui sont avec des grandes capacités, et vous avez la grande majorité qui est simplement, font partie des gens qui sont communs. Et nous faisons partie de ces gens qui sont communs. En tout cas, moi, vous, non, vous, vous êtes formidables, en fait. Vous êtes merveilleux. Vous êtes tous là-haut. Mais ce sont ces limitations qui nous empêchent d'atteindre nos rêves et nos idéaux. Et quelque part, ça fait souffrir. Lorsque j'étais enfant, j'étais un enfant avec de grosses difficultés d'apprentissage. J'ai redoublé mon CM2 parce que j'étais 37e sur 38. Et quand on était 37e sur 38, eh bien, on ne passait pas. On redoublait. Alors, j'ai dû refaire mon CM2. Et là, j'ai réussi à passer en 6e. Et à la fin de la 6e, on a convoqué mes parents et on a dit « Daniel ne peut pas continuer la scolarité parce qu'il va redoubler la 6e. Et s'il redouble la 6e, eh bien, ça va lui donner vraiment beaucoup de retard parce qu'il est né en décembre et tout, et tout, et tout. » Cette situation était extrêmement difficile à vivre pour moi. Parce que je voyais mes petits copains de l'église, eux qui gravissaient les échelons scolaires avec facilité, et plus le temps passait, plus ça devenait compliqué, parce que à 14 ans, je me suis retrouvé avec une caisse à outils à partir faire de la mécanique. Et au bout d'un an et demi, on a appelé mes parents, on m'a dit « Écoutez, en 6e, il n'était pas bon avec sa tête. Eh bien, un an et demi plus tard, il n'est pas bon avec ses mains. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors, j'ai commencé à me dire que si Dieu l'y avait, il existait pour tout le monde, mais pas pour moi. Si Dieu il y avait, il aimait tout le monde, mais il ne m'aimait pas moi. Et donc, j'ai commencé à me plonger dans la lecture et j'ai commencé à vivre ma vie autrement que par ce qu'on essayait de me communiquer, puisque ce qu'on me communiquait ne rentrait pas. Et ce qu'on me disait à l'église, je n'y croyais plus. À 14 ans, ce n'était même plus la peine d'essayer de me parler de Dieu. Pour moi, c'était faux. Ça ne correspondait pas à la réalité. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à vivre par procuration. Et donc, je lisais beaucoup. Mes parents avaient opté de ne pas avoir de télévision à la maison. Alors, je me suis précipité dans des livres. J'ai lu les récits antiques, des gladiateurs. Et j'ai lu tous qui pouvait correspondre à des héros. Michel Vaillant, conducteur automobile, j'ai lu des... Bref, tous ces héros nourrissaient mon imaginaire et faisaient que j'essayais de me retrouver là-dedans. Et donc j'avais une affection toute particulière pour les vengeurs. Ceux qui étaient capables, par leur seule force, par leur seul pouvoir, par leur seul courage, qui étaient capables de rétablir une situation d'injustice. Alors ça réjouissait mon cœur. Et je rêvais moi-même d'être ce vengeur, d'être celui qui pourrait prendre sa revanche sur sa propre vie, évidemment. Et donc, en tant qu'adulte, j'ai commencé à vivre et à agir pour essayer de me sortir de ma situation, qui était une situation professionnelle, on va dire, relativement correcte, dans la mesure où je crois que le Seigneur vraiment veillait sur moi. Mais voilà, j'avais 18 ans, et mon travail, c'était de balayer les rues. C'est pas un mauvais travail que de balayer les rues. Mais ce n'était pas à cela que j'aspirais. Et j'étais triste de devoir me cacher parce que j'avais honte. Lorsque je balayais le centre-ville de Strasbourg le dimanche matin et que je croisais certains de mes copains qui peut-être allaient à l'église, je ne voulais pas qu'ils me voient avec un balai dans les mains. Alors j'ai balayé, j'ai monté les tribunes, ensuite j'ai fait le coursier dans un bureau. Et je me suis dit un jour, si tu n'agis pas par toi-même, si tu ne te sors pas toi-même de ce marasme, eh bien tu vas vivre une vie ratée. Et j'ai alors commencé à agir en prenant exemple sur des modèles du quotidien. Et à l'époque, c'était beaucoup le concept du self-made man, celui qui se fait lui-même. C'était l'époque de Bernard Tapie, qui montrait l'exemple. Et je me suis engagé. Voilà, je me suis dit, je vais faire pareil. Et j'ai monté des entreprises. Avec pas beaucoup de succès. Un peu, mais pas beaucoup. Succès d'estime, on va dire. J'ai pris ces modèles-là. Vous savez, réellement, le modèle qu'on a, c'est celui normalement de notre Père, dans le foyer. Le modèle, c'est celui du Père. Mon père était un homme de Dieu. Et je pense qu'il aurait beaucoup aimé que je le prenne comme modèle. Et mais ça, je ne l'ai pas fait. Parce que j'estimais que... Parce que je le voyais. Je voyais ce qu'il vivait, puisque j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans dans le même bureau. Et je voyais que... Il travaillait 4 fois plus que les autres. Parce qu'il faisait le travail de ceux qui arrivaient ivres le matin au boulot. Je voyais que lorsque quelque chose n'allait pas et que ça retombait sur lui, il ne bronchait pas. Et je me suis dit, mais quand même, c'est pas permis de vivre comme un pigeon. C'est pas permis que d'être à ce point-là un tapis sur lequel on se lave les pieds. Et définitivement, je me suis dit, ça, ce ne sera pas mon modèle. Pour moi, les chrétiens étaient des perdants, des gens qui ont besoin d'aller à l'église comme un malade a besoin d'aller à l'hôpital. C'était là ma conception du croyant. Ce que je cherchais, c'était à devenir un dieu. Je voulais devenir un héros. Je voulais que de celui qui avait raté ses études, on puisse dire, oh là, il a réussi dans la vie. Je voulais gagner beaucoup d'argent. J'étais prêt à cela, pour cela j'étais prêt à tout, à beaucoup travailler et à beaucoup marcher sur les gens aussi. Jusqu'au jour où j'ai compris que le problème n'était pas que dans mes difficultés d'apprentissage, mais que le problème était surtout dans mon cœur. Et que ce problème que j'avais dans le cœur faisait que ma perception de la réalité était fausse. J'avais une frustration et je n'arrivais pas vraiment à mettre une cause dessus. Je savais qu'il me manquait quelque chose. On m'avait dit souvent que c'était Dieu qui me manquait. J'avais des amis que j'avais connus enfants qui de temps en temps m'invitaient, me parlaient de Dieu, essayaient de me ramener dans l'église. En général, ils étaient très maltraités par moi. Mais, peu à peu, j'ai réalisé que mon problème allait au-delà du problème de la frustration de ne pas avoir réussi à étudier. J'ai réalisé que donc ma perception de la réalité était faussée. La perception de ce qui est vrai, de ce qui est bien et de ce qui est mal n'était pas juste. C'était un peu le problème, enfin beaucoup même, le problème qui a touché Ève dans le jardin lorsque Satan a réussi à lui faire croire qu'il lui manquait quelque chose. Satan a réussi à dire à Ève, tu sais, Dieu sait quelque chose que toi tu ne sais pas. Dieu sait que si tu manges, eh bien tu seras comme lui. Et elle a dit, ah bon, mais ça je ne le savais pas. Et en elle est née une frustration, la frustration de ne pas savoir. Et de cette frustration est née une action que l'on connaît aujourd'hui ô combien profondément. Ne pas savoir ce que son héros savait. Et ça, c'était une frustration. Dieu sait que si vous en mangerez, vous connaîtrez. Je vais raconter la suite de mon histoire un peu après. Je m'excuse de parler autant de moi. Mais je trouvais que c'était important, peut-être parce que bon, certains des fois aussi m'ont demandé mon témoignage, donc ça permet d'ajuster les choses. Et puis comme ça, vous réalisez peut-être aussi que je ne suis pas sorti frais et moulu d'une université, il y a eu des choses entre deux. On a parlé d'une deuxième question. La deuxième question, c'est, et qui découle de la première, est-il mal de vouloir changer sa situation lorsqu'elle est insatisfaisante? C'est une question, comme j'ai dit avant, qui préoccupe au premier chef les chrétiens de l'Église persécutée. Notamment ceux qui sont des anciens musulmans. Ceux-là, plus que les autres, réalisent que leur vie quotidienne, qui était normale et peut-être même plutôt sympathique, devient un enfer du jour au lendemain. Et évidemment, pour ces gens-là, il ne s'agit pas de culpabiliser. Je veux dire, c'est pas que leur insatisfaction n'est pas née d'une volonté d'obtenir des choses et de ne pas les avoir. Leur insatisfaction, elle est liée au fait que leur vie devient insupportable. Et ils sont donc finalement des victimes d'une situation. Et dans ces moments-là, le témoignage, c'est que Dieu testent. Ils ne testent pas le fait de savoir si on est insatisfait ou pas et si c'est justifié ou pas. Mais ils testent notre réponse à cette insatisfaction. Comment est-ce que tu réponds à l'insatisfaction qui naît dans ton cœur un jour? Et là, on ne va pas y aller, mais Caïn, c'était le cas entre Caïn et Abel. Lorsque Caïn a vu que son offrande n'était pas acceptée, il s'est irrité. Et je suis sûr que Dieu pouvait comprendre ça. Dieu pouvait très bien comprendre l'irritation de Caïn. Mais Dieu est venu et l'a averti. Il a dit, Caïn, fais attention à ce que tu vas faire. Comment tu vas agir? Parce que le péché est tout près. Le risque de dérapage est tout près. Mais si tu agis bien, alors ça ne dérapera pas. En traduit moderne, c'est ça. Hein ? Eh bien, malgré cela, Caïn a mal agi. Dieu l'avait testé sur ça. Pas sur le. Dieu pouvait comprendre, et Dieu comprend à quel point nous pouvons être insatisfaits. Et il nous avertit. Il dit, mais agis bien dans cette situation. C'était aussi le cas avec Sarai et Abraham. Abraham venait d'avoir une promesse, tu auras une multitude d'enfants. Et Sarai, voyant que ça ne se produisait pas, a commencé à agir en lui présentant Agar. Et en disant, voilà, moi je suis trop vieille, je ne peux pas avoir d'enfant, et donc je te présente ma servante. Fais un enfant avec elle, et ainsi la promesse de Dieu sera accomplie. Et on sait aujourd'hui quelles sont les conséquences de cette union dans le monde. Puisque Ishmaël est né de cette union. Dieu aussi avait testé l'insatisfaction qui était dans le cœur de cette femme, et peut-être d'Abraham aussi. Et la réponse qu'ils ont donnée a chaque fois eu des conséquences qui étaient désastreuses. Mais bon, c'est aussi le plan de Dieu, évidemment. Mais si on s'attache juste à ces exemples-là, on voit comment on a agi sous le coup de la frustration, pour réduire la frustration, puisque c'était un déshonneur que de ne pas avoir d'enfant. Alors, elle a agi. Dieu nous teste quant aux décisions que nous prenons pour réduire notre frustration. Dieu nous a fait à nous une promesse de prospérité spirituelle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors moi, je ne sais pas si ça vous parle, un verset comme ça. Ça nous parle. Et pourtant, on agit par impatience, parce qu'on ne voit pas les fleuves d'eau vive. Qu'est-ce qui a dit à Dieu? Où sont les fleuves d'eau vive? On agit par dépit. Je ne sens rien. Je suis déçu. Alors, je fais. Et donc, on agit dans nos vies pour faire en sorte que ce que Dieu a promis fonctionne. Alors, dans les les exemples, je pourrais en prendre plein, mais quand on voit comment certaines techniques du marketing sont appliquées dans les églises, eh bien, c'est spécifiquement la frustration qui est à l'origine de l'implantation de ces techniques dans les églises. C'est parce que l'homme, au lieu d'attendre le temps de Dieu, au lieu d'accepter peut-être même que ce n'est pas de son vivant qu'on voit les fruits, mais ce sera peut-être pour les suivants, au lieu d'accepter ces situations-là, eh bien, la frustration fait que on a importé les techniques du monde dans l'Église pour essayer de faire fonctionner quelque chose dont on sait qu'il y a une promesse pour. Et donc on a l'attitude, c'est le syndrome de Sarai d'une certaine manière, d'appliquer la promesse à la place de Dieu. Évidemment, il y aura des conséquences à cela. C'est inévitable. De la même manière qu'il y a eu des conséquences à la frustration d'Ève, de la même manière qu'il y a eu des conséquences avec cette union entre entre Abraham et Agar, il y aura des conséquences au fait que nous voulons agir à la place de Dieu. Parce qu'en réalité, ce que nous professons, c'est que Dieu est menteur et que Dieu est incapable. Un soir, lorsque j'étais devenu adulte, un soir bien sombre, on va dire, dans ma vie, alors que j'avais tout tenté humainement pour vaincre ma frustration, et que j'avais réalisé que, eh bien, finalement, j'étais quand même un raté. J'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Dieu, si c'est vrai que tu m'aimes, comme on me l'a enseigné lorsque j'étais petit, d'où l'importance d'enseigner aux enfants. Si c'est vrai que tu m'aimes depuis mon berceau, alors prouve-le-moi. Je ne te connais pas, je ne sais pas où te trouver. Si toi tu es puissant, vraiment, alors il t'appartient de venir me rencontrer moi. 4 ans plus tard, dans ma cuisine, la nuit, j'ai su que Dieu était venu. J'ai su et j'ai connu immédiatement la capacité divine à rendre vraies les promesses dont il parle dans sa parole. J'ai su immédiatement que Dieu avait non seulement la puissance, mais également la volonté de faire qu'il y ait des fleuves d'eau vive dans ma vie. Parce que ça, c'est l'effet du Saint-Esprit lorsqu'il entre dans l'homme. Il ne vous enseigne pas la doctrine. Il ne vous enseigne pas la théologie. Il ne vous enseigne même pas le plan de la rédemption. Mais il vous donne une certitude. C'est que je suis présent. Ce qui m'est venu à l'esprit immédiatement, c'est il y a 4 ans tu as prié pour que je vienne. Eh bien, aujourd'hui, je suis là. Moi, j'avais oublié cette prière. Mais cette prière est revenue immédiatement dans ma tête. Et je savais que Dieu était présent. Et je savais que ma vie, désormais, ne serait plus jamais la même. Et Une deuxième chose que le Seigneur m'a appris, c'est la notion de simplicité. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est faite pour les simples. Les intellectuels peuvent se faire plaisir avec, il n'y a aucun problème. Mais d'abord et avant tout, Dieu a voulu que le message soit accessible au plus grand nombre. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas enseigné pour être compris. Vous réalisez cela. Vous réalisez que les disciples ont compris seulement après. Lorsque le Saint-Esprit est venu, les choses leur sont revenues en mémoire. Il a dit ça. Bien, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui est un enseignement en elle-même. Mais les effets du Saint-Esprit sont les mêmes. C'est-à-dire que l'on reçoit le Saint-Esprit. Et lorsqu'on lit, tout d'un coup, la parole devient vivante. Et ça, lorsqu'on le réalise, ça amène la paix dans le cœur. On n'est plus en train de se dire « Bon, il faut que je fasse absolument une école biblique ou théologie ou quelque chose comme ça. » Surtout quand on a envie de servir le Seigneur. Et moi, c'était ce que je souhaitais faire, une grande école biblique. N'est-ce pas? Pourquoi une grande école biblique? Parce que certains modèles avaient fait eux-mêmes des grandes écoles bibliques, n'est-ce pas? Certains écrivains chrétiens. Et le Seigneur doit nous apprendre à sortir de ce cycle infernal qui est toujours de vouloir aspirer à ce que font les autres. Toujours vouloir copier et vivre au travers de ce que sont ou font les autres. Il y en a, ils vivaient au travers de Johnny Hallyday. Il y en a, oui, mais on a aujourd'hui le même phénomène dans certaines églises avec des jeunes qui vivent au travers de certains chanteurs chrétiens. Bon, si ça les amène réellement à la foi à un moment, eh bien, tant mieux. Oh là, je crois que j'ai pris trop de temps. Et j'ai encore tout un chapitre. Qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça quand on n'arrête pas de parler de soi. Bon, je vais essayer rapidement de terminer. Que faire pour être délivré du sentiment d'insatisfaction? En réalité, ce qui doit être modifié dans notre vie, c'est ce que j'ai déjà évoqué, c'est notre perception et notre définition de la satisfaction. Et pour cela, nous devons inverser notre perception même de l'idéal chrétien. Donc j'ai dit qu'on a certains, même parmi nous, prenons pour modèle des grands chrétiens. Alors, c'est pas mal de vouloir, de se dire, bah, tiens, j'aimerais être comme lui. Et, ça peut nous pousser un peu. Mais inévitablement, ça amène de la frustration. Parce que je ne suis pas mon modèle. Et je ne serai jamais mon modèle. Je suis un être complètement indépendant. À qui Dieu a donné un nom, à qui Dieu a donné un caractère, et pour qui Dieu a un plan qui est bien spécifique. Et voilà, donc, n'a pas à chercher à ressembler à tel évangéliste ou à tel intercesseur pour Dieu ou à Billy Graham. Hein. Après Johnny Hallyday, c'était Billy Graham. Non. Mais non, mais c'est bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter ce que les autres ont fait, c'est formidable. Mais c'est leur vie. Et elle leur appartient, et c'est entre Dieu et eux-mêmes. Et on ne peut pas vivre au travers de cela. Et là où j'aimerais arriver simplement, c'est de dire, on prend ces modèles-là en exemple. Or, et c'est pour moi un peu récent, tout en le sachant, je ne le vivais pas de la même façon, mais on n'a pas l'habitude de vouloir prendre en modèle nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Et pourtant, croyez-moi qu'au milieu d'eux, il y a des sacrés héros. Et croyez-moi que certains ont, en quelques années, eu plus de succès que Billy Graham n'en a eu dans toute sa vie. Mais on ne les prend pas en modèle de héros. Pourquoi ? Parce que lorsque plusieurs millions de personnes se sont converties en 5 ans de ministère, ils ont ensuite passé 20 ans en prison. Et pour certains, ils sont morts. Ils ont été exécutés à cause de cela. Alors ça, c'est les martyrs qui ont eu du succès. Mais en même temps, vous avez des martyrs qui n'ont pas eu plus de succès, entre guillemets, que vous et moi. Et pour qui le résultat était le même. Juste parce qu'ils ont osé prononcer, dire oui à Jésus-Christ, eh bien, leur destinée a été de mourir. Est-ce que nous prenons ces hommes et ces femmes en modèle pour notre vie chrétienne? Dans tous les cas, nous sommes appelés à prendre pour modèle le Seigneur Jésus lui-même. Et celui du modèle de la persévérance parfaite qui même, dans les tribulations qui ne vont pas manquer d'arriver sur ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, de Timothée 3, verset 12. N'est-ce pas être chrétien aujourd'hui, comme au temps de la Réforme et comme au temps apostolique, se résume à une seule vérité dans laquelle se retrouve encapsulée toute la révélation de Dieu. 1 Jean 3,16 « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Le grand problème, il est là. C'est que tant que nous n'avons pas donné nos vies, nous vivons la frustration. N'est-ce pas? Mais un mort n'est pas frustré. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a plus de frustration. C'est donc cette perception de la vie chrétienne qui doit être changée complètement. C'est que nos vies doivent disparaître. Nos intérêts, tous ces besoins qui font de nous des êtres frustrés, disparaissent lorsque nous donnons nos vies pour nos frères et nos sœurs. Jésus a dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. C'est pas qu'il ne voit pas, c'est que ce qu'il voit, c'est pas ce qu'il doit voir. Or, pour voir et pour avoir une vraie perception des choses, il faut la nouvelle naissance. Jésus, un peu avant ça, a dit à Nathanaël, tu crois à cause de ce que je t'ai dit, hein, vous savez, il avait vu Nathanaël sous l'arbre, et Nathanaël était complètement abasourdi, et Jésus lui dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges du ciel descendre sur le, et monter sur le Fils de l'homme, quelque chose comme ça. Mais c'est vous verrez désormais le ciel ouvert. Mais personne ne voyait le ciel ouvert lorsqu'il voyait Jésus. Pourtant, le ciel était ouvert et les anges étaient présents. Mais il faut que la perception change complètement pour que ces choses-là prennent un sens. Sinon, c'est de la légende, c'est de la fable. C'est du déraisonnement complet. Et enfin, ce qui contribue durablement à changer notre regard et qui nous délivre de l'insatisfaction, c'est lorsque nous vivons en ami de Christ. Et là, je vais lire le verset Jean 15, verset 15. Et on peut être ami de Christ parce que lui-même nous a pris comme ami. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas, le serviteur ne voit pas, il n'est pas impliqué, on ne lui dit pas, on ne l'avertit pas, on n'a pas besoin de lui dire, de toute façon. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout. Je vous ai fait connaître tout. Tout ce que j'ai appris de mon père. Est-ce que nous nous rendons simplement compte de ce que cela signifie? Est-ce que notre perception de la vie de Dieu est la bonne? Est-ce que Jésus est notre ami dans ce sens-là? Ou lorsque nous venons à lui, lorsque nous sommes auprès de lui, il nous parle, il nous enseigne, il nous dit des choses très particulières qui concernent le Père. Est-ce que ça nous influence dans notre vie au point que nous avons envie vraiment de nous débarrasser de notre propre vie et de toutes les frustrations qui vont avec pour donner, nous donner à l'autre. Et ne plus avoir envie de vivre une vie par procuration, une vie que l'on imagine devrait être celle-ci puisque mon exemple préféré a vécu cela. L'exemple, c'est celui de notre ami, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup et je prie pour que les uns et les autres, ici et ailleurs, nous sachions, nous connaissions ce que signifie que de se donner pour être libre, que de mourir pour ne plus vivre la frustration. Que la puissance de Dieu en nous soit réelle et qu'elle nous parle, qu'elle soit le moteur de notre volonté, et non pas juste l'imaginaire. Parce que Satan peut nous remplir l'imaginaire, sachez-le, et il va le faire. Seigneur notre Dieu, oh combien ta parole est sainte, combien ta parole est dépourvue de défauts, et combien, Seigneur, tu es un Dieu capable de donner une grande confiance à ton peuple, que ce que tu as promis, c'est-à-dire que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein, eh bien non seulement tu as la puissance pour le faire, mais tu as aussi la volonté pour l'accomplir dans chacune de nos vies. Seigneur, pour le reste, pour ce qui est du succès dans l'évangélisation, pour ce qui est de devenir un prédicateur ou d'être un chanteur, Seigneur, tu as un plan pour chacune de nos vies. Et nous ne voulons pas faire, ô Dieu, les choses à ta place. Nous voulons être de ceux qui savent te faire confiance envers et contre tout, et qui savent que tu fais toujours ce que tu dis. Pour chacun d'entre nos vies, chacune d'entre nos vies, pour l'Église locale ici et pour l'Église universelle. Dans le nom de Jésus.